Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Premier épisode de l'année, je l'enregistre en direct de la Thaïlande où je passe mon mois de janvier. Du coup, je ne suis pas dans mes conditions habituelles d'enregistrement. Tu entendras peut-être quelques bruits parasites comme la clim ou la circulation. Donc voilà, j'espère que cette écoute sera quand même agréable pour toi. Dans ce premier épisode, je vais revenir sur mon année 2023. J'aime toujours faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. C'est l'occasion pour moi tout simplement de documenter mon année et d'en garder une trace, mais c'est aussi l'occasion pour toi. Alors pour ma part en tout cas, je suis fan des bilans des autres et ce que j'en retiens, ce que ça m'apporte en fait quand j'en écoute, c'est souvent de venir soulever des propres réflexions pour moi ou pour mon business et également des inspirations, hein, tout simplement d'être inspiré par les autres. Et on a toujours finalement de l'impact à travers ce qu'on partage. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des choses à prendre pour toi dans cet épisode. C'est ce que je te souhaite. Donc je vais simplement te partager un petit peu les moments forts de mon année, les succès bien évidemment de cette année écoulée, mais aussi les différents obstacles que j'ai pu rencontrer et les leçons que j'en ai tirées. Alors, en vrac 2023, pour moi, c'est quoi ? J'ai envie de dire, je vais commencer un peu par le business. Enfin, je vais un peu mélanger finalement le business et le perso, mais parce que enfin, c'est très lié finalement dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'entrepreneur. Donc, en vrac, c'est notamment deux lancements live en direct hein, de YogiBizLine, donc un challenge qui avait eu lieu au mois de mars. Qui était donc quelles offres créer pour générer 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. Le Yoga Business Bootcamp du mois de novembre, où là, on a parlé à la fois de communication, d'organisation, de vente, de stratégie de vente et de mindset. Et celui de novembre notamment, hein, ça a été un lancement à plus de 100 000 euros. Donc, c'était pour la première fois pour moi que je faisais un lancement comme ça à 6 chiffres. Donc, une réelle satisfaction et une réelle réussite, ces deux lancements. C'est du coup près de 300 clientes qui ont rejoint YogiBizLine cette année. Donc, à la fois sur lancement, mais à la fois aussi en evergreen, puisque YogiBizLine est disponible en dehors de ces périodes de lancement toute l'année. Hein. On rejoint YogiBizLine quand on veut. Donc, finalement, c'est en ce qui me concerne hein, 87% de mon chiffre d'affaires qui vient de cette offre signature qui est YogiBizLine. Donc, tout mon business hein, repose aujourd'hui à près de 90% sur cette offre-là. C'est aussi sur cette offre-là exclusivement quasiment que je passe mon temps, que je travaille à l'améliorer, à animer les coachings, etc., etc. On peut y voir des avantages comme des inconvénients et j'y reviendrai peut-être là-dessus. Mais en tout cas, c'est aussi du coup, c'est ce qui me permet d'avoir du 20-80 dans ma vie. Enfin voilà, c'est mon gros bateau. C'est aussi ce qui me permet de me faire plaisir sur d'autres offres de temps en temps. C'est ce qui me permet d'avoir du temps pour moi. C'est ce qui me permet d'avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. C'est ce qui me permet de toujours vendre plus parce que je connais bien mon audience, je connais bien mon produit, je l'améliore constamment. Donc voilà, pour moi, c'est... ça fait sens aujourd'hui d'avoir 87%, près de 90% de mon business qui vient de YogiBizLine. Pour ceux que ça intéresserait, pour celles que ça intéresserait, la répartition de mes revenus entre l'Evergreen et les lancements live, parce que je sais que vous êtes nombreuses à vouloir souvent très rapidement passer sur de l'Evergreen, de la vente en continu, en se disant ça va tourner tout seul. Donc c'est 30% de mes revenus de cette année qui proviennent de l'Evergreen en ce qui concerne YogiBizLine et 70% des revenus de YogiBizLine qui proviennent des lancements live. Donc moi, je constate que sur cette année en tout cas, effectivement, clairement les lancements live, hein, c'est ce qui m'a permis de quasiment tripler mon chiffre d'affaires sur cette année 2023. Pardon. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est les chiffres qui le disent. Ce qui veut dire que, attention, hein, l'Evergreen, ça marche très, très, très bien. Moi, l'année précédente, j'avais réalisé et atteint mon chiffre d'affaires. J'avais fait une belle année. J'étais très contente de mon année avec juste de l'Evergreen. Ça veut juste dire que, le fait d'avoir un combo des deux stratégies peut amener aussi une croissance dans le business ou peut amener plus loin en termes de nombre de clientes et de chiffre d'affaires. C'est tout ce que ça veut dire. Cette année, c'est aussi quatre nouvelles offres, hein, finalement, qui ont été créées. Donc, d'une part, les analyses Human Design que j'ai automatisé. la prévente en fin d'année donc de mon programme HD Business. J'ai aussi créé une formation qui s'appelle Insta by Design, mais qui est réservée aujourd'hui aux clientes de Yogi Bizline et qui est en bonus, en fait, quand on rejoint Yogi Bizline. Et puis, bah, bien évidemment, j'ai quand même aussi créé l'agence des mentors. Donc, bah, mine de rien, hein, c'est pas forcément, j'avais pas forcément prévu de créer autant d'offres sur cette année. Mais finalement, quand on fait le point, bah, on se rend compte qu'on a souvent fait beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait. J'ai aussi signé pour être chroniqueuse business avec pour le magazine Esprit Yoga Magazine. Le premier article d'ailleurs est paru sur l'édition du mois de janvier-février. Donc je suis très contente d'avoir cette nouvelle corde à mon arc. Ça a été aussi l'année où j'ai démarré mes interventions donc dans les Yoga Teacher Training sur la partie business, et j'interviens notamment donc régulièrement dans le 200 heures de Jinko Yoga Studio de Perrine à Lyon, et j'aime beaucoup cette casquette, hein. Je crois que cette année je vais intervenir 3 ou 4 fois. Je suis intervenue aussi pour certains Yoga Teacher Training en ligne. Pour Emmanuel, je sais plus où tu es, Emmanuel, à l'île Maurice, je crois. Non, je sais plus, j'ai un doute. Et puis, je vais probablement intervenir aussi dans un autre Yoga Teacher Training pour le Canada, en ligne également. Donc voilà, ça, c'est une casquette que j'aime beaucoup, et je m'aperçois en fait à quel point c'est nécessaire d'amener, hein, tu sais, moi, mon cheval de bataille, c'est ce fait de changer de paradigme et de lâcher les codes historiques du métier de prof de yoga en venant ajouter des offres en ligne à son activité, et aussi d'expliquer tout ce principe en fait de suite d'offres, comment fidéliser ses clients, etc. Et je m'aperçois que c'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas quand on démarre et quand on se lance dans le métier de prof de yoga. Donc je suis très contente de pouvoir amener ces déclics et ces réflexions pour la suite du parcours de ces jeunes profs de yoga. Cette année, ça a été aussi ma rencontre en physique avec Lucie. On s'est rencontrés cette année à Nîmes. Lucie est venue passer 2-3 jours avec moi, et ça fait quand même 3 ans qu'on travaille ensemble, hein, Lucie. Elle est avec moi quasiment depuis le début de mon business, enfin près de 3 ans. Donc du coup, j'étais super contente de la rencontrer. Et puis je pense que vraiment, ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de se réorganiser, de se comprendre, de se connaître, de mieux comprendre aussi le fonctionnement de l'autre. Et puis, c'est aussi un petit peu de cette rencontre finalement qu'est née l'impulsion vraiment de mettre en route le projet de l'agence des mentors. Donc je remercie aussi beaucoup Lucie pour ça, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue et motivée entre guillemets sur ce projet. Donc merci Lucie si tu m'écoutes. Cette année, ça a été aussi beaucoup de voyages. C'est hyper important pour moi, hein. J'ai choisi cette carrière, et j'en fais d'ailleurs ma mission, hein, de dire que je veux que chacune d'entre nous puisse avoir de la liberté dans son quotidien, à la fois financière, géographique et temporelle. Et du coup, pour moi, ça passe par le fait de pouvoir voyager, de pouvoir être entre guillemets, alors, je vais pas dire digital nomade, parce que c'est pas vraiment une vie digital nomade, c'est plutôt du workation, hein, c'est-à-dire de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc j'ai pu voyager en Thaïlande, je suis allée à Bali 2 fois, enfin à Nusa Lembongan, hein, puisque c'est mon fief, c'est mon QG. 2 fois, je suis allée à Chagra en Égypte, et je suis allée aussi à New York pour les 10 ans de mon fils. Donc beaucoup de voyages cette année, et moi ça me nourrit, j'en ai énormément besoin. Et encore une fois, je fais ce métier pour vivre ça au quotidien. Et ça m'a pas empêché, ça a pas ralenti mon business, ça a rien mis en stand-by, bien au contraire. Donc vraiment, j'incarne aussi via ces voyages un petit peu ma mission, et puis aussi mon archétype de marque qui est l'exploratrice. Autre chose cette année aussi, j'ai donc signé depuis le mois d'août pour un coaching en ligne de muscu, donc avec une coach en ligne de musculation. Clairement, ça a été le game changer de mon année à partir du mois d'août. C'est un coaching qui m'a déjà vu le travail qui a été mis en place, et puis les résultats que j'ai obtenus déjà, qui m'a vraiment fait reprendre confiance en mon image. Alors, j'avais pas forcément perdu confiance, hein, mais c'est encore mieux aujourd'hui, j'ai envie de dire. J'ai aussi surtout gagné beaucoup en énergie, en clarté, en concentration, en focus. J'ai aussi du coup Finalement, je me suis mieux organisée à partir de ce moment-là et j'ai encore mieux. Tu sais, moi, je travaille 4 jours par semaine, en moyenne 25 heures par semaine. Et en fait, j'ai encore mieux réussi à prioriser mon temps, mon énergie, mon organisation, aller à l'essentiel. Enfin, voilà, donc vraiment, ça a été bénéfique sur plein de points et pas que sur le physique, finalement. Je faisais beaucoup d'insomnie où j'avais pas toujours un sommeil régulier. Bah, ça, c'est régulier. J'avais des gros problèmes digestifs. Alors, je sais pas si c'était digestif, mais en tout cas, j'avais des grosses douleurs au ventre très, très régulièrement. Je n'ai plus jamais mal au ventre. Et rien que ça, ça m'a clairement changé la vie. Je passe aussi beaucoup moins de temps à scroller sur mon téléphone, ce que du coup, c'est quand même... C'est un coaching qui me prend en moyenne 3 heures par jour quasiment. Enfin, au moins 3 heures les jours où je vais à la salle en fait. Et puis les autres jours, entre les pas, le suivi des macros, le suivi même de ce que je dois renvoyer à ma coach, etc. Voilà, c'est facilement 1 heure et demie pour les autres jours. Et donc du coup, encore une fois, quand on a quelque chose comme ça dans notre emploi du temps dont on vient faire un non négociable, je suis comme tout le monde, j'ai que 24 heures dans une journée, donc ça veut dire que le reste de mon temps, je l'optimise aussi. Donc voilà, ça me permet d'éviter de procrastiner, de scroller, de faire des trucs qui me servent à rien. Cette année, ça a été aussi des nouveaux cadeaux clientes. Je suis très contente. Alors, ça paraît peut-être une petite chose au milieu de tout ça, mais d'avoir lancé ma production de tote bag, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis contente du coup d'avoir trouvé le fournisseur et c'est pour moi, j'ai trouvé ce petit mantra Yogi Enrich. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Et je suis très contente en fait d'avoir mis en place ce cadeau cliente, d'avoir trouvé quelque chose. Qui était propre à moi et que je pouvais envoyer à mes clientes en dehors des carnets, des choses comme ça. Donc voilà, et puis j'ai rajouté là en fin d'année une petite trousse avec le tote bag. Moi je l'utilise personnellement justement quand je suis en voyage ou pour mes tickets de caisse et tout ça, pas forcément pour mes crayons. Mais du coup voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce nouveau package de cadeaux clientes. Et puis on dirait pas comme ça, mais c'est du travail en amont de recherche, de créativité, de recherche de fournisseurs, d'études des prix, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué cette année. Autre point aussi, j'ai travaillé toute l'année avec ma business friend. Alors, on avait déjà travaillé un petit peu ensemble l'année précédente et là, cette année, on avait vraiment calé nos projets. Alors, on a toujours chacune des projets pas en commun aussi, mais en tout cas, sur la partie Yogi Bizline, notre offre signature, on avait à peu près le même calendrier marketing, on va dire. Franchement, ça, c'est super. Si vous pouvez trouver votre business friend, c'est vraiment super. Moi, pour la petite anecdote, ma business friend, elle est manifesteur en human design. Par contre, ce qui est assez difficile là-dedans, c'est de suivre son rythme, de s'adapter un peu au rythme de l'autre. En tant que manifesteur, quand elle est sur un truc, elle est hyper focus, elle fait tout d'un coup, elle va jusqu'au bout des choses. C'est fini, c'est plié, on passe à autre chose. Les manifesteurs, ils ont une énergie de dingue quand ils sont en train de travailler sur un sujet, quoi. Alors que moi, en tant que manifesteur générateur, je peux avoir commencé un truc en janvier et le finir en novembre, en fait. Et c'est complètement OK parce que j'ai besoin de me nourrir de d'autres choses entre les deux. Du coup, ça a été un petit peu parfois challengeant par rapport à ça, parce qu'évidemment, on s'était fixé des deadlines communes, etc. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour moi de pas finalement toujours suivre mon rythme. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi challengée dans le bon côté des choses. Et puis surtout, le fait d'être à deux, moi, finalement, je dirais que ça m'a certainement permis d'avancer sur certains projets plus vite, du coup, donc de réaliser aussi peut-être plus de choses. Et puis, d'un autre côté, moi, j'ai une approche qui est différente aussi de ma business friend, où j'ai parfois une vision plus globale des choses avant de rentrer dans les petits détails et peut-être, je vais pas dire plus stratégique, mais du coup... qui permet de savoir vraiment où on va. Donc ça, c'était intéressant aussi, du coup, de mixer. En fait, c'est tout l'intérêt d'avoir une business friend, mais c'est vraiment d'échanger, de se soutenir, d'avoir plus d'idées à deux que toute seule, parce que entre du coup, ma vision et ses idées, le tout mélangé, finalement... En fait, finalement, je dirais que j'ai souvent plus un regard visionnaire et ma business friend, une très belle manière d'intégrer les choses. Donc en fait, entre ma vision et ses capacités à intégrer les choses, du coup, bah vraiment, on a fait une bonne équipe toutes les deux cette année. Donc ça, c'était vraiment un point positif pour moi, je pense, cette année. J'ai aussi rejoint un réseau professionnel local féminin, donc les Garaëlles à Nîmes. Donc je crois que je les avais déjà rejoints l'année précédente parce que c'était en fin d'année. Mais cette année, je me suis un petit peu plus investie. Alors, même si j'ai pas participé à toutes les soirées, tous les événements, mais par contre, ça a créé des nouvelles opportunités pour ma casquette d'intervenante et de conférencière, puisque je vais intervenir notamment pour parler et diffuser le Human Design. Donc ça, je suis très contente sur cet aspect-là aussi. Si tu as suivi mes stories, bah 2023, c'est aussi l'achat d'une nouvelle maison et donc un nouveau déménagement et un nouvel emménagement prochainement. Mais je suis très très contente puisque je pense que c'est la seule maison de l'écusson à Nîmes. Et comme tu le sais, moi j'aime être en plein centre-ville. J'ai besoin d'avoir les commerces à côté de chez moi, d'aller boire un café, de pouvoir me promener en centre-ville, de voir du monde, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait un peu de bruit, hein, pas trop, mais un peu. Et donc, du coup, bah, voilà, je pense que là, je suis en plein milieu de l'écusson à Nîmes. Donc, très contente, on est très contents de cette nouvelle acquisition. Et je vais avoir la chance d'avoir un bureau, une pièce à part entière avec mon petit chalet de yoga, enfin, un petit espace pour faire mon yoga, etc. Un rooftop aussi qui va me permettre de pouvoir faire du yoga en extérieur le matin de bonne heure au lever du soleil. Enfin, voilà, donc ça me réjouit aussi pour l'année 2024. En vrac également, donc sur cette année 2023, j'ai aussi pris la décision donc de ne plus laisser les coachings collectifs du programme Yogi Bizline en illimité. Donc j'avais écrit une newsletter à ce sujet il y a quelques mois en arrière. Donc j'ai décidé de les limiter dorénavant à 12 mois. Et ça aussi, c'est une décision qui m'a vraiment soulagée et qui fait complètement sens aussi pour moi dans ce que je souhaite en fait à mes coachés. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, 12 mois, c'est ce qu'il faut et c'est largement suffisant pour mettre en place un business. Je trouve que in fine, c'était pas rendre service à certaines personnes d'étaler trop ça dans le temps. Donc voilà, je suis très contente de cette décision stratégique et d'ailleurs il est même probable que je réduise encore ce délai sur la prochaine formule à venir. Donc voilà, je suis très contente de cette décision stratégique. Je suis aussi assez satisfaite de la stratégie de vente que j'ai mis en place cette année en termes d'acquisition et de conversion. Donc évidemment, j'ai mis des tunnels de vente en place. Évidemment, j'ai mis des lancements live en place qui ont très bien fonctionné aussi. Mais au quotidien, j'ai aussi développé à partir du mois d'août cette tendance un peu des reels là. Autant j'aimais pas du tout l'ancien format de Reels où il fallait faire des montages à n'en plus finir, des effets spéciaux. Moi j'aime pas trop les voix off humoristiques, les trucs comme ça, c'est pas trop ma cam. Donc je me suis bien retrouvée dans la tendance un peu plus actuelle là, des Reels où on peut venir partager des choses un peu plus, enfin avoir une accroche qui donne envie d'aller plus loin. Donc au moins on fait pas chier le monde, c'est-à-dire que voilà, si l'accroche elle plaît, la personne elle va plus loin, si l'accroche lui plaît pas, elle va pas plus loin et basta. Et je trouve intéressant de pouvoir développer aussi ce SEO dans les légendes un petit peu plus, d'utiliser l'automatisation mini-chat. Je trouve que c'est quand même, en termes d'expérience client, bien plus simple que d'aller cliquer dans le lien en bio, etc. Donc moi, ça, cette année, sincèrement, ça m'a vachement aidé dans ma communication et développé mes leads, hein, donc mes adresses email énormément grâce à cette stratégie. Et aussi grâce au format de posts qui sont un peu comme des petites punchlines que je peux transmettre ou que je peux lire ou que je retraduis parfois en français. Je reviendrai dessus dans un prochain épisode parce que j'ai notamment un de ces posts-là qui clairement m'a ramené plus de 1000 abonnés en même pas un mois, je crois. Justement, donc ça veut dire que c'est un post qui a continué de tourner et qui a continué de m'apporter des abonnés sur Instagram pendant plus d'un mois. Donc ça, c'est quand même assez rare hein, sur Instagram, parce qu'on a l'habitude de dire que voilà, ce qu'on publie sur Instagram en 24 heures, ça part aux oubliettes. Bah, c'est pas vrai. Quand le format et que le post, le sujet est bon, en fait, ça fonctionne. Et surtout... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, moi, alors l'avantage, hein, c'est que ça m'a malgré tout ramené quand même de l'audience qualifiée. Donc, c'est ça aussi le revers de la médaille de cette stratégie à la fois de Reels ou de un peu genre post punchline, citation, réflexion inspirante, c'est que ça peut bah, amener finalement tout le commun des mortels à nous suivre, et du coup ça devient pas du tout pertinent pour toi en termes d'engagement et derrière en termes de conversion. Et en fait, du coup, bah, moi ça m'a quand même vraiment, à chaque fois que j'avais des nouveaux abonnés, c'était des gens qui étaient dans l'holistique, particulièrement dans le yoga. Donc ça, ça a été plutôt un bon succès pour moi cette année. Aussi concernant donc les coachings one-one que j'ai, alors j'avais complètement arrêté, j'en ai quasiment pas fait sur cette année, hein, j'en ai fait vraiment à la marge un ou deux, et puis là en fin d'année j'en ai repris quelques-uns, mais exclusivement sur des entrepreneurs qui d'une part ont suivi le programme YogiBizLine et d'autre part sont déjà ce que j'appelle avancés, donc ont déjà une offre qui est en place, qu'elles vendent, sont connues pour cette offre-là et bah, ont déjà des résultats voilà, de chiffre d'affaires, on va dire sur une moyenne de 30, 50, 80 000 euros, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà quelque chose qui est en place, donc on va dire sur ce que j'appelle des entrepreneurs plus avancés. Et ça, ça me plaît beaucoup plus d'accompagner en one-one là-dessus. Je sens en fait que je me déconnecte petit à petit un peu plus des entrepreneurs qui débutent, hein, et c'est normal parce que j'évolue et du coup, en fait, c'est devenu... Quand quelque chose devient inné pour soi, c'est plus difficile après de savoir peut-être le réexpliquer ou d'avoir la patience aussi de faire comprendre les choses, etc. Donc c'est plus intéressant pour moi aujourd'hui et ça me draine moins en énergie de travailler avec des entrepreneurs plus avancés. Et j'ai aussi fait ce choix de reprendre des one-one bah, pour comprendre justement de quoi ont besoin finalement maintenant ces profs de yoga qui sont un peu plus avancés, puisque bah, mon audience évolue, mon public évolue, mon client idéal évolue, et donc c'est intéressant pour moi de me dire bah, quelle pourrait être la suite après YogiBizLine. Donc finalement ça me sert un peu aussi de laboratoire d'essais pour voir ce que je pourrais éventuellement créer par la suite comme offre pour des profs de yoga ou d'autres entrepreneurs qui bah, auraient déjà un business qui tourne et qui ont besoin d'aller à l'étape d'après. Et pour terminer, donc 2023, c'est vrai aussi qu'en termes de contenu, j'ai pas toujours été régulière sur le podcast et la newsletter. Je n'ai même pas du tout été régulière sur le podcast et la newsletter, ce qui m'a... malgré tout, hein, c'est comme ça, mais ça m'a un petit peu culpabilisée parfois. Par contre, tous les épisodes que j'ai créés et toutes les newsletters que j'ai écrites, elles ont eu un franc succès en termes d'écoute. Donc, ce qui veut dire que même si j'ai pas du tout été régulière sur le podcast, j'ai passé la barre du nombre d'écoutes que je m'étais fixée. Tout simplement, hein, parce que encore une fois, c'est des formats de contenu qui continuent à travailler pour nous tout le temps. Et donc, y a des personnes bah, presque tous les jours qui me découvrent via le podcast et puis qui binge-watch tous les podcasts, tous les épisodes qui existent déjà. Donc ça, je pense que quand j'ai créé mon podcast, c'était une très bonne décision que j'avais prise, hein, puisque voilà, c'est vraiment du contenu qui travaille pour moi. Et donc, même si j'ai moins été présente cette année, les épisodes que j'ai faits, bah, soit des interviews, soit c'était des sujets vraiment stratégiques ou des sujets qui plaisent à mon audience, hein, et à mon client idéal que je connais par cœur. Et donc, du coup, en fait, bah, ça a cartonné et ça m'a quand même fait exploser en termes de nombre d'écoutes cette année versus les autres années aussi. Et pareil pour les newsletters, j'ai continué à avoir des très très bons taux d'ouverture. J'ai pas écrit tous les 4 matins, mais les newsletters que j'ai envoyés, en tout cas, c'est des newsletters où j'ai eu pas mal de retours. Donc ça aussi, c'est un indicateur pour moi de me dire bah voilà, le contenu a plu, il était attendu, ou en tout cas, voilà, c'est ce que les gens attendent de moi. Donc même si ça a été moins régulier, ça a quand même été performant et ça a quand même eu de l'impact, entre guillemets. Voilà, donc je C'est pas pour ça que je veux être moins régulière. Hein. J'ai des intentions pour cette année concernant mon podcast et ma newsletter en termes de fréquence et de régularité. Mais voilà, quand les sujets sont bien choisis, qu'on connaît bien son client idéal, c'est pas parce qu'on l'abreuve pas de contenu tous les 4 matins que, bah voilà, que ça fonctionne pas. Voilà, donc je dirais que bah, en vrac 2023, c'est un petit peu tout ça. Et si je devais résumer mon année, je poserais les mots expansion et les mots life balance, donc équilibre de vie si tu préfères. Donc expansion, bah, parce que effectivement, hein, j'ai fait 3 fois plus de chiffres quasiment que l'année précédente. Mais surtout au-delà du chiffre, parce que c'est pas forcément ce qui caractérise l'expansion pour moi. Enfin, si, c'est de la croissance factuelle, quoi. Mais surtout, je dégage de la rentabilité, j'ai un business avec un super bon niveau de marge. Alors moi, depuis mon expérience en corporate, hein, de toute façon, je suis marquée à la marge. J'étais dans la distribution B2B et c'était vraiment l'indicateur à suivre, c'était la marge. Voilà, ce qui compte pour moi aujourd'hui quand je fais les choses, c'est de voir si c'est quelque chose. Alors évidemment, je peux faire aussi des choses par passion et qui ne dégagent pas de rentabilité extrême. C'est le cas de l'agence des mentors, par exemple. Mais sinon, voilà, ça va être quand même dans l'ensemble sur mon business, c'est ce que je vais regarder. Et c'est un business cette année qui m'a permis de dégager suffisamment de bénéfices pour m'acheter un appartement en cash. C'est l'une de mes priorités en 2024. Donc pour moi, c'est ça finalement mon succès financier. C'est pas forcément d'avoir multiplié mon chiffre par 4 en soi, et aussi d'avoir une trésorerie dense et saine qui pourrait me permettre de ne pas travailler pendant plusieurs mois, de faire face à des imprévus, voire même plusieurs années selon mon niveau de vie. Donc ça pour moi c'est vraiment la clé, hein, donc bénéfices et trésorerie bien plus important finalement que chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai vraiment piloté stratégiquement mes chiffres au cordeau cette année. Donc aussi bien par rapport à mes décisions stratégiques dans mon business, mais aussi voilà, où est-ce que je dois placer mon argent, qu'est-ce que je dois en faire en fin d'année, par exemple ouvrir un PER, etc. Bon, parce que je suis en société. Enfin bref, tout ça, je l'ai vraiment piloté et suivi au cordeau, et je suis très contente du coup des décisions que j'ai prises, des choix que j'ai faits, puisque c'est ce qui me permet aussi d'avoir pu dégager autant de bénéfices et malgré tout de garder aussi une bonne trésorerie. Donc ça, c'est vraiment une de mes leçons, c'est que la course aux chiffres, finalement, c'est pas tant ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, il y a des entrepreneurs ou des entrepreneuses, hein, qui voilà, disent haut et fort à quel point elles ont fait 1 million et qu'elles veulent en faire 5 et 10, etc. Sauf que derrière, si tu as 25 salariés ou 25 prestats ou 30 prestats ou des charges de pub, etc. Enfin, la rentabilité, forcément, et donc les bénéfices pour toi et ta trésor peuvent en être impactés. Donc en fait, les chiffres que tu vois, rappelle-toi toujours que ça signifie rien tant que tu connais pas la santé financière de l'entreprise, et en l'occurrence, ce qui reste à la fin à l'entrepreneur, ce que l'entrepreneur se paie et comment elle est capable de se mettre en sécurité si c'est son besoin, hein, par rapport à ça. Et moi, je peux dire que voilà, cette année, vraiment une de mes plus grandes fiertés et un de mes plus grands apprentissages aussi, hein, ce que j'apprends sur ce sujet-là, vraiment, je suis novice, bah, c'est d'avoir su piloter stratégiquement tout cet aspect financier en étant entourée. Hein, j'ai beaucoup investi pour être bien conseillé par rapport à ça, mais j'insiste que avant de partir tête baissée dans quoi que ce soit et de se dire ça va générer du chiffre, etc., le sujet c'est vraiment de se dire mais combien je veux gagner et pourquoi je veux gagner ça, je vais en faire quoi, et combien j'ai besoin et qu'est-ce que je veux avoir pour me sentir en sécurité. Et ça change tout pour prendre les décisions par la suite. Expansion, pourquoi? Bah aussi mon expansion à moi, ma propre évolution. D'ailleurs, c'est la première année que j'ai autant de retours sur le fait que j'inspire, que je suis inspirante dans la manière de gérer mon business, mais aussi j'ai eu beaucoup de retours cette année sur mon impact et mon influence dans l'aspect justement plus équilibre de vie, prendre du temps pour soi, du temps pour sa santé, s'entretenir, faire du sport, l'alimentation, etc. J'ai eu énormément de de retour sur cette influence entre guillemets life balance, lifestyle finalement. Et tant mieux, parce qu'en fait vous avez raison d'être inspiré ou d'être influencé par ça et par ce que je peux partager sur ces sujets-là, parce que c'est à mon sens une grande partie du succès pour un entrepreneur. Quand on a le sport, l'activité physique, le sommeil, la bonne alimentation et de bonnes habitudes ou des bonnes routines quotidiennes, et aussi donc des non négociables hein, par rapport à ça et des garde-fous bien clairs finalement, et bien comme je vous le disais, forcément ça amène plus de clarté, ça amène plus de focus, ça amène plus de prise de recul, plus de confiance en soi, donc enfin tout mis bout à bout, plus d'efficacité. Du coup moi j'ai décidé de cette année encore plus d'en faire une vraie ligne directrice et un vrai pilier de contenu en 2024, donc je reviendrai dans un autre épisode pour vous parler de 2024, mais clairement moi je vais garder hein, voilà mes 4 séances de sport par semaine qui inclut du cardio et de la musculation. Je vais garder le suivi de mes macros, je vais garder le nombre de pas que je fais tous les jours, je vais garder le suivi de mon sommeil, le suivi de mon niveau de stress, le suivi de ma faim, le suivi de ma digestion, enfin tout ça vraiment pour moi c'est un des piliers, enfin une des choses que j'ai mis en place cette année et qui m'a clairement permis de driver mon business comme je l'ai drivé. Je pense que c'est sincèrement lié à la performance de mon business et de mon activité. Donc je continuerai de vous parler de ça et je vous remercie de me dire en toute transparence et de me partager régulièrement le fait que ça vous impacte, ça vous influence, parce que ça me permet aussi du coup d'oser partager encore plus cet aspect-là de ma vie. Et de toute façon, aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté parce que c'est aussi important que mon business, en fait. Hein. Je passe quasiment plus de temps là-dessus que dans mon business en soi. Donc voilà, c'est très important pour moi de vous partager ça. Au-delà du life balance et de ce lifestyle, ce qui a contribué aussi à mon évolution, à mon expansion cette année, c'est le human design, hein, tout simplement. Donc paradoxalement, j'ai arrêté de me former sur le human design, j'ai arrêté d'acheter des formations, j'ai arrêté de consommer plus de contenu sur le human design et j'ai aussi arrêté d'aller dans des niveaux de lecture plus avancés. Mais au contraire, j'ai cherché à toujours plus observer et tester les fondamentaux de mon HD, à savoir mon type, ma stratégie, mon autorité, mon profil et mes centres. Et en fait, effectivement, hein, 80% de l'alignement, de mon alignement finalement réside dans ces fondamentaux-là. Ça fait vraiment, c'est vraiment une couche de lecture qui fait 80% du job. Et du coup, je suis contente de voir à quel point, petit à petit, hein, j'expérimente encore mieux mon HD, je l'incarne encore plus et finalement, que oui, les choses deviennent plus fluides quand je suis dans mon fonctionnement naturel et quand je me laisse aller à ce fonctionnement-là. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée aussi en fin d'année, hein, justement, quand j'ai un peu commencé déjà à faire le bilan, parce que j'ai un peu fait le bilan de mon année presque sur un mois roulant. C'est aussi ça qui m'a décidé finalement à actionner et à lancer en bêta et en pré-vente mon nouveau programme HD Business, parce que je me suis rendu compte que ça avait largement contribué à mon expansion aussi cette année. Donc en résumé, hein, moi qui ai pour mission d'être, pour mission pour les autres, mais aussi pour moi d'être libre et indépendante en termes de temps, géographiquement et financièrement, tout en étant moi pleinement et en ayant du temps pour continuer à évoluer et à servir un maximum de personnes, et ben je crois que voilà, cette année j'ai rempli cette vision et cette mission à la fois via du coup cette expansion et ce travail sur moi. Donc j'en suis plutôt ravie. Et du coup pour clôturer sur cet aspect life balance, hein, donc effectivement j'ai quand même constaté cette année que il y a quelque chose qui était devenu une normalité pour moi, c'était de ne plus travailler les soirs, de ne plus travailler les week-ends, de ne plus travailler les jours fériés. Et donc en fait c'est quand je vois d'autres créatrices, entrepreneurs, profs de yoga, même vous des fois, je vous ai vu prendre ces résolutions pour cette année-là, et c'est là que j'ai pris le temps, enfin j'ai marqué une pause et je me suis dit, en fait ça c'est déjà devenu une normalité pour moi depuis assez longtemps. Et tout comme effectivement depuis presque 6 mois maintenant, 5 mois, d'avoir intégré finalement presque ces 3 heures de sport pour moi par jour, enfin 4 jours par semaine, hein, c'est pas tous les jours, mais voilà. Très sincèrement, voilà, ça a été plus efficace pour moi qu'un tracker de temps pour savoir sur quoi mettre mon focus, pour aller à l'essentiel. Donc j'ai vraiment gagné en organisation, même s'il y a toujours des choses à améliorer, et surtout gagner en énergie, et ça a fait vraiment toute la différence pour moi. Donc j'ai envie de dire que finalement j'ai triplé mon chiffre d'affaires en ne travaillant que 25 heures par semaine, 4 jours par semaine, et en prenant énormément de temps pour moi et finalement pour ma santé physique et mentale. Donc, sans transition, si je devais élire la meilleure décision de mon année, bah, clairement, ça serait ça. Ça serait d'avoir pris une coach. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est pas quelque chose que je fais toute seule, parce que encore une fois, on sait pas ce qu'on sait pas, et c'est aussi parce que j'investis dans une coach tous les mois, sans relâche, que j'ai des résultats. J'aurais fait la même chose, mais toute seule, ça aurait rien à voir, c'est certain. Donc, je pense encore une fois qu'il y a rien à faire, se faire accompagner, c'est ce qui fait quand même avancer et avancer plus vite. Donc, moi, clairement, prendre cette coach de musculation en ligne, ça a été game changer pour moi et pour la performance de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens comme ma meilleure décision de l'année. Donc vous voyez, c'est même pas une décision professionnelle, c'est plutôt personnelle, mais qui a eu de l'impact sur le professionnel. Mon plus grand défi, alors petit moment de vulnérabilité, là aussi peut-être que vous tu t'y attends pas du tout, vous y attendez pas du tout à ce que je vais vous partager, mais ça a été de diminuer, voire même d'arrêter à un certain moment l'alcool. Voilà, c'est en toute vulnérabilité, hein, je sais que c'est peut-être pas quelque chose que vous vous attendiez à retrouver dans mon bilan, mais on a toutes nos parts d'ombre. Je bois pas beaucoup souvent, mais je buvais beaucoup le week-end. C'était concentré. Et quand j'ai commencé mon coaching sportif, justement, que j'ai commencé à suivre mes macros, hein, donc c'est-à-dire mes glucides, mes protéines, mes lipides, etc., et à traquer tout ce que je mangeais et tout ce que je buvais, bah clairement, en fait, j'ai pris conscience que je buvais énormément d'alcool le week-end. Et à ce moment-là, j'ai compris avec ce coaching-là que ça allait plus être possible et qu'en gros, j'avais le droit à une fois dans la semaine boire un ou deux verres, par exemple le samedi soir ou le vendredi soir, et c'était tout, hein, ce que ça m'autorisait en tout cas au début. Et je dois reconnaître que j'ai vécu l'enfer pendant plusieurs semaines. Je me suis sentie privée. Ça a réellement eu de l'impact sur mon humeur, sur mon couple, sur mes envies de sortir. Alors moi qui suis déjà hyper casanière, j'avais perdu le goût des choses. Vraiment, tout est devenu fade. Donc vous imaginez quand même l'impact, alors que encore une fois, c'est pas de l'alcool, genre tous les soirs je bois un verre avec les copains, c'est pas de l'alcool, je vais en soirée, je bois plein de cocktails, etc. Enfin, c'est vraiment genre l'apéro du vendredi soir, le petit plaisir du samedi midi, la soirée du samedi soir, le repas poulet rôti, huître familial un peu du dimanche midi, et tu finis la bouteille le dimanche soir. Mais en fait, du coup, c'est vrai que sur un week-end, ça fait beaucoup. On parle quand même que de quelques verres de vin, parce que j'ai pas non plus une capacité d'absorption, donc c'est 2-3 verres par repas. Donc je sais pas, c'est pas une grande consommation, mais insidieusement, ça faisait partie finalement de mes plaisirs, de mes besoins presque. C'était devenu une addiction finalement, hein, le week-end. Et ça venait mettre un masque sur plein d'autres choses, hein, donc c'est un peu... Je pourrais faire le parallèle avec le yoga, vous savez, c'est un peu comme quand on commence à rentrer dans le yoga, à pratiquer le yoga, à faire du yoga, et en fait, on change soi, je pense, sur plein de choses, plein de perspectives, et du coup, notre regard aussi, on a l'impression que tout ce qu'il y a autour de nous, du coup, change. Enfin, notre regard change sur tout ce qu'il y a autour de nous, on devient parfois... une autre personne, on a d'autres pensées ou quoi, et on se sent plus forcément en adéquation avec les gens ou avec les situations ou avec les environnements dans lesquels on vit. L'alcool arrêté du jour au lendemain, c'est pareil, ça enlève, on se rend compte en fait que ça venait mettre un masque, mettre un voile sur plein d'autres choses. Donc sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses plus personnelles, ça a été vraiment un des gros défis de mon année que j'ai en plus un peu dû vivre toute seule, quoi. Voilà, bah, enfin, ouais, j'avais pas de raison de parler forcément de ça publiquement, déjà d'une. Et puis, bah, pas forcément voilà, de soutien ou quoi dans mon entourage sur ce sujet. J'ai lu un livre qui m'a aidée petit à petit aussi à remonter la pente, puisque j'ai quand même compris et c'est un phénomène, hein, franchement, ce truc aussi. Ce timing social avec l'alcool en France, notamment. Donc, ça m'a beaucoup aidé de lire ce livre. J'ai remonté la pente petit à petit. Mais voilà, c'est une période qui m'a interrogée, une période où j'ai été un petit peu repliée sur moi-même, un peu dans l'ombre, où j'étais pas forcément de très bonne humeur. J'ai surmonté un peu ça toute seule. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pas arrêté l'alcool, hein. Je suis pas devenue alcool free, mais voilà, je fais pas non plus dry January par exemple ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose quand même qui m'a marqué sur mon année et qui du coup a été comme un de mes plus grands défis. Donc voilà, je voulais juste vous le partager ici en toute transparence. Ce qui a contribué grandement à mes résultats cette année, bah, j'en ai un petit peu déjà parlé, mais évidemment, c'est le sport et donc cet équilibre dans ma vie, hein, très clairement. Un temps de travail réduit qui me laisse du temps pour me ressourcer, pour ma créativité, pour prendre du recul. C'est aussi donc le HD, comme j'en ai parlé. Et puis, je vais faire simple, mais faire la même chose... Bah depuis 3 ans, en fait, je fais la même chose. Je me concentre sur la même offre que j'itère, que je développe, que j'améliore, etc. Sur le même positionnement. Je réétudie mon client en idéal en permanence. Enfin, je l'étudie même pas. En fait, je suis à son contact en permanence. Donc, je le mets à jour voilà, facilement dans ma tête. Je crée du contenu régulièrement, même si j'ai pas été régulière sur le podcast ou sur la newsletter. Mais il y a quasiment pas un jour où je ne suis pas présente. Je communique aussi toujours avec un objectif précis. Je m'éparpille pas sur plusieurs plateformes. Je développe et je mets en place des actions et des événements pour développer ma liste email avec des événements gratuits notamment. Je rempile à chaque fois sur les mêmes stratégies de vente, hein, c'est-à-dire un combo entre lancement et evergreen. Quand j'ai une nouvelle idée, j'utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire pré-vente et bêta-test. Je fais aussi des bilans régulièrement, donc je traque mes résultats, mes chiffres constamment pour ajuster et donc pas voilà, continuer dans la mauvaise direction. Et puis, je crois aussi que ce qui me caractérise, c'est d'être assez généreuse dans tout ce que je transmets, dans tout ce que je donne, dans tout ce que je partage. Et bah, j'ai envie de dire, voilà, c'est ma secret sauce, mais en soi, c'est une secret sauce assez classique, sans mystère et sans magie, sans hack. Et c'est exactement ce que j'enseigne, mais finalement, c'est aussi ce que moi, j'applique à mon business de manière continue et sans voilà, réinventer la roue tous les 4 matins. Ça fait 3 ans que je fais ça et j'ai envie de dire que je pense que bah, voilà, c'est tout simplement l'effet cumulé qui fait aussi que bah, j'ai fait une très belle année cette année, là où tout le monde dit que c'est la crise, où il y a plein de formateurs qui ont arrêté, plein d'entreprises qui ont fermé, plein de... créateurs, coachs, etc., qui expliquent pourquoi cette année ça n'a pas fonctionné, parce que le marché n'allait pas, parce que les gens, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a de plus en plus de fausses, enfin de mauvaises formations, je ne sais pas trop quoi. Enfin voilà, moi, tout ça, je me suis pas du tout, à aucun moment, sentie concernée, mais bah voilà, parce que tout simplement, j'ai des bases solides, j'ai des fondamentaux solides, je ne fais pas n'importe quoi, et je pense que ça contribue. Bah, tout simplement de faire les choses avec répétition et engagement dans le temps, ça contribue aussi à la croissance de mon business. Les 3 meilleurs moments de mon année, j'ai un souvenir d'une journée à New York, à la plage à New York, à Coney Island, avec mon fils Liam. C'est un jour où il pleuvait, mais on a quand même décidé d'aller à Coney Island. Et c'est vraiment, j'ai vraiment l'image de danser sous la pluie, en fait, ce jour-là. Et puis, le soleil s'est levé. Il y a eu une très belle éclaircie ensuite dans la journée. Et je pensais que mon fils, il allait vouloir faire les manèges, parce qu'à Coney Island, il y a cette espèce de parc d'attractions, là, un peu vintage, à l'ancienne, etc. Et en fait, pas du tout. Il a eu juste envie de se balader avec moi, de marcher sur la plage, plage, on s'est posé, on n'avait même pas de serviette, on s'est posé à l'arrache sur nos vêtements. Voilà, on a fait des équilibres, on a joué dans le sable, on est allé se tremper les pieds. Il y avait des petits playgrounds, enfin des trucs pour faire du sport là. Voilà, il a juste eu envie de jouer à ça. On a mangé un hot dog. Enfin voilà, quand on est rentré, on s'est endormi un petit peu tous les deux dans le métro. Et en fait, j'ai adoré parce que mon fils, il m'apporte tellement ça. C'était tellement simple cette journée et en même temps tellement précieux ce moment qu'on a partagé tous les deux. J'en suis émue quand je le raconte. C'est très rare me concernant. Mais voilà, vraiment, on avait besoin de rien. On était tous les deux, on était bien sur cette plage à Coney Island. Ça, c'est vraiment un de mes meilleurs moments de mon année. Un deuxième meilleur moment, bah, c'est quand je suis partie à Bali, à Nusa Lambogan, un peu sur un coup de tête en fin d'année, toute seule. Et là aussi, hein, moi, j'aime être seule. Je me ressource énormément. Évidemment, en plus, à Lambogan, maintenant, je commence à connaître du monde. Donc, c'est assez drôle. Et moi, j'arrive très, très bien à vivre et à travailler en étant à l'étranger comme ça parce que je recrée en fait mes routines. Et du coup, ça a été aussi un super moment. C'est là où d'ailleurs où j'ai préparé, et notamment avec ma business friend, tout le business bootcamp du mois de novembre. Et j'adore faire ça en fait, partir 15 jours comme ça, travailler sur un projet et en même temps, prendre du temps pour moi, être au chaud, être au soleil, aller faire du sport dans une nouvelle salle. Enfin voilà, c'était vraiment super. Et j'aime tellement Lambogan que c'est pour ça que j'ai décidé cette année de me mettre à apprendre l'indonésien parce que je pense que j'irai et j'y retournerai encore et encore. Donc j'ai encore plus envie finalement de pouvoir discuter avec les locaux, avec ma petite deuxième famille que j'ai là-bas. Donc ça reste un excellent souvenir aussi. Et puis le troisième meilleur moment de mon année, c'est d'avoir vu mon corps se transformer. Je me disais et je pensais un peu avec fatalité que voilà, passer la quarantaine, c'était compliqué, etc. Et en fait, c'est comme tout est toujours possible n'importe quand. Et d'ailleurs j'aime bien parce que c'est la promesse de ma coach, c'est te transformer définitivement. Et je trouve que elle incarne, enfin voilà, en tout cas sa promesse est juste puisque je suis en chemin pour ça. Et ça, c'est vraiment une réelle satisfaction pour moi, ça compte beaucoup. Ce qui a moins marché maintenant, parce que tout n'a pas été tout beau, tout rose. Alors, j'ai tendance à les oublier hein, quand je fais le bilan, mais j'ai eu des galères administratives et comptables toute l'année. Ça m'a même mis à l'arrêt hein, plusieurs semaines parce que déjà, ça a été très énergivore mentalement, moralement, mais en plus, à chaque fois, c'est des démarches, des choses à faire. Donc, ça n'a pas tant généré de l'anxiété chez moi, parce que encore une fois, j'ai une trésorerie saine, ça ne me met pas en danger, et puis voilà. Mais par contre, de l'agacement, de perdre du temps et d'avoir affaire à des gens incompétents. Ça fait partie des tempêtes de l'année que j'ai quand même traversées, et puis en ayant pris la décision quand même en fin d'année, une bonne fois pour toutes, de changer de comptable. Donc ça, je crois que ça peut être aussi une leçon ou un enseignement. Vraiment, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut changer les choses tout de suite. Moi, j'ai trop attendu, j'ai laissé traîner, j'ai toujours eu l'espoir que ça s'arrange. Mais en fait, c'est comme dans tout, ça ne s'arrange jamais. Donc le mieux, c'est de prendre la décision le plus rapidement de changer les choses quand on est dans une impasse comme ça. Ce qui a moins marché aussi, la publicité. J'ai pas investi des grosses sommes, hein, c'est peut-être ceci explique peut-être cela, mais j'avoue que non seulement j'ai pas réussi vraiment à trouver les bons prestataires encore, et puis j'ai pas percé le secret. Clairement, sur mon dernier lancement par exemple, ça m'a apporté zéro, mais zéro de chez zéro. Alors ça m'a apporté des leads, mais c'est des leads qui n'ont pas converti. Ça reste encore une énigme pour moi, à tel point même que je suis même pas sûre d'avoir envie de rempiler sur de la publicité cette année. Ça reste en stand-by pour moi. Le blog aussi, alors c'est pas que ça a pas marché, c'est que c'est quelque chose, c'est un format de contenu qui vibre pas pour moi. Donc j'avais délégué hein, mes articles de blog, mais franchement à chaque fois que je devais relire l'article, c'était le truc que je mettais de côté, ça me faisait jamais envie, je trouvais ça très pénible. Je trouve que c'est difficile aussi de déléguer l'écriture parce que finalement c'est pas notre patte, c'est pas notre manière de dire les choses. Bref, ça, c'est vraiment un format qui m'a pas du tout fait vibrer. Du coup, j'ai décidé d'arrêter cette année d'écrire des articles de blog, enfin la délégation des articles de blog. Ça m'a vraiment pas plu. Ce qui a moins marché aussi, c'est que j'aurais aimé être plus visible dans l'audience des autres, peut-être plus sollicité ou démarché pour des sommets, des conférences en ligne, des choses comme ça. Alors finalement, ça s'est passé, mais plutôt en présentiel. Alors c'est une bonne surprise aussi et plutôt agréable. Mais c'est vrai que je me rends compte, en fait, que... dans le milieu de l'univers du business en ligne, etc. Le fait que je m'adresse à des profs de yoga, je ne sais pas pourquoi, mais on ne croit pas en fait que je suis spécialiste en marketing digital, en acquisition, en conversion, en stratégie de lancement, etc. Et donc, on ne vient pas forcément me solliciter. Je sais pas, on doit penser que d'ailleurs j'ai beaucoup de gens qui me démarrent genre tu es prof de yoga, tu veux organiser des événements de yoga, etc. Donc je pense que voilà, je sais pas, de l'extérieur on vient pas me chercher en tout cas pour le business, donc c'est pas grave, ça sera à moi de faire les démarches, mais en soi en réalité j'en ai pas forcément besoin, donc voilà. Et puis pour le coup, je suis contente aussi d'intervenir de plus en plus en présentiel et j'ai pu me rendre compte en fait, en me confrontant aux personnes de mon réseau, justement des gens en présentiel, qu'en fait bah, y a encore plein de gens qui savent pas ce que c'est que le business en ligne, qui comprennent pas mon business model, qui voilà, quand je dis que je suis en ligne, j'ai systématiquement cet esprit de dire ah oui non mais moi j'ai besoin de voir les gens, ah oui non mais pour moi c'est moins quali en ligne qu'en présentiel, enfin ouais, en fait je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de thérapeutes et de même de prestataires de services, etc., qui n'imaginent pas toutes les possibilités du online. Du coup, alors, je trouve ça quand même intéressant parce que je me dis, OK, il y a encore un gros travail d'éducation à faire et en fait, on est peut-être encore qu'au début, finalement, d'aider les gens à transitionner, pour certains, en tout cas, s'ils le veulent, leur activité en ligne. Donc, finalement, ça m'a aussi un petit peu ouvert d'autres portes d'aller aider de manière plus large que les profs de yoga sur le fait d'ajouter des offres en ligne à son activité et de transformer son business model. Et je pense que du coup, ça sera un de mes objectifs aussi sur mon autre compte Instagram, The Working Blondie, qui va certainement changer de nom prochainement et qui sera plus broad en fait et qui sera plus sur l'entrepreneuriat en ligne d'une manière générale et notamment avec cet aspect aussi life balance. Donc voilà, du coup ça m'ouvre aussi petit à petit finalement d'autres portes de me rendre compte de ça en présentiel. Ce qui a pas trop marché aussi, pour moi en tout cas, c'est le passage à Discord pour ma communauté. Donc j'avais un groupe Facebook à l'époque, mais alors moi j'ai énormément de mal à me retrouver dans les notifications Facebook. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. J'aime pas du tout. Du coup, je voulais un petit peu plus structurer les choses. Donc je suis passée à cet outil communautaire qui est Discord. Alors, concernant mes clientes, bon, certaines ont adoré et adopté dès le début. D'autres ont été plus frileuses. Et puis finalement, s'ils sont faites ou s'ils sont habitués, moi, j'aime pas du tout. En fait, je trouve que les gens confondent Discord et en fait écrivent des mails sur Discord. Et donc, je me retrouve avec des messages, voilà, archi longs que je ne sais pas traiter. Moi, je sais pas quand le truc fait 10 pages, c'est impossible pour moi de traiter ce genre de contenu. Moi, j'aime une question courte et puissante pour donner une réponse pertinente et puissante. Et j'ai même vu, hein, typiquement, je t'écris mon mail ici parce que, enfin voilà. Et en fait, ça pour moi, c'est un échec. C'est pas possible comme support communautaire. Donc, bah, c'est quelque chose qui est encore en réflexion. Et actuellement que j'ai délégué du coup, c'est Marie, une de mes mentors du coup qui s'occupe du groupe Discord, mais voilà, ça pour moi c'est voilà quelque chose qui a moins fonctionné cette année. Notion aussi, j'ai voulu me faire accompagner et alors me former, mais comme j'ai pas le temps de suivre des formations, de me former en autodidacte, j'ai voulu me faire accompagner pour voilà mettre en place mon espace Notion avec les choses dont j'avais le plus besoin. Bon, clairement, j'ai perdu mon temps. Ça m'a coûté beaucoup en plus à ce moment-là en remise en question, en énergie. J'ai pas compris pourquoi je bloquais autant. Enfin voilà, c'est venu vraiment chercher des choses chez moi. J'ai perdu de l'argent aussi, évidemment. Alors attention, Notion, ça peut être très bien. La prestataire avec qui j'avais travaillé, elle est au top du top sur Notion. En fait, c'est même trop pour moi tellement, voilà, elle est experte et... voilà, elle a une approche, c'est Notion, elle maîtrise, il n'y a pas de souci. Ses accompagnements sont super bien faits, ses prestations aussi. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire, hein, ça vient de moi. Notion, c'est pas pour moi ou pas dans sa version la plus aboutie. C'est pas mon mode de fonctionnement. Je pense que j'ai pas besoin de ça. C'est pas comme ça que je veux driver mon business. Donc voilà, donc ça a été pour moi un échec. Ce qui a moins marché aussi, alors c'est pas que ça a moins marché, c'est juste un besoin et c'est probablement cyclique, naturel et normal. Voilà, je coach beaucoup depuis 3 ans, j'en suis à 4 coachings collectifs par semaine, des coachings collectifs qui durent 1h30, parfois 2h. Donc le Discord, hein, comme je vous disais, l'outil communautaire aussi, où j'ai beaucoup de demandes et souvent des demandes qui sont en fait pas appropriées pour l'outil Discord, des choses trop longues, etc. Mais bon, voilà, c'est pas évident de savoir discerner tout ça quand on est cliente. J'ai fait donc beaucoup de challenges, j'ai donné beaucoup quand même de contenu gratuit, etc. Et je sens que j'ai un petit peu besoin de faire une pause dans tout ça. Donc de me faire soutenir finalement pour la première fois vraiment dans les coachings, hein, que tout ne repose plus sur mes épaules. Et moi, à l'inverse, je sens que j'ai plus envie d'apporter en temps réel, ce que j'expérimente, les stratégies que je mets en place. Donc par exemple, j'ai plus envie de partager en temps réel ma stratégie de Reels, en temps réel le lancement que je viens de faire, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que j'en retire, quels sont les apprentissages, etc. Je sens que j'ai plus envie de communiquer sous cet aspect-là que vraiment de coacher. En tout cas, là, en ce moment, c'est ce qui ressort. Je me sens plus dans cette inspiration de leadership et de management aussi que de coaching. Je sens un besoin de step back cette année, ou en tout cas là sur ces premiers mois, et de que mon business en fait ne repose plus à 100% sur moi. Donc je suis en train d'opérer des changements pour ça, et je vais continuer à structurer Yogi Bizline et notamment sa refonte en ce sens, en gardant ça en fait à l'esprit. Ce qui a moins marché aussi entre guillemets, c'est que je me suis moins faite accompagner, moins formée aussi cette année. Alors me former, sincèrement, je le fais par des choses voilà qui me nourrissent de manière ponctuelle, mais si je dois choisir aujourd'hui, clairement moi je me ferai toujours accompagner pour aller plus loin. Donc voilà, j'ai plus besoin, on a toujours besoin de formation, mais j'ai plus besoin de coaching, d'accompagnement, enfin de mentorat même, que de formation en soi. Du coup, ça, j'ai bien remis ça au clair pour 2024. Donc, je vais notamment me faire accompagner dans la restructuration du Yogi Bizline. Et puis aussi, j'ai envie d'aller travailler sur ma créativité et sur l'écriture notamment intuitive. Donc ça fait partie des projets sur lesquels je vais me faire accompagner en 2024. Ce qui a moins marché aussi cette année, donc je vous le disais, c'est ma régularité. J'ai été carrément off parfois sur plusieurs semaines ou plusieurs mois sur des types de contenus, donc soit des publications Instagram, soit des épisodes de podcast, soit des newsletters. J'ai trouvé ça... en fait, je trouve qu'il y a tellement de contenu maintenant que moi-même, j'ai pas envie d'inonder de contenu. Alors c'est difficile parce que voilà, le contenu et l'organique, c'est aussi ce qui fait tourner mon business. Mais j'essaie voilà de pas créer pour créer. Et du coup, cette année, ça a été plus compliqué. Je trouvais ça plus lourd, plus énergivore. Alors peut-être aussi parce que, encore une fois, comme je fais la même chose depuis 3 ans, il peut y avoir un peu des passages de lassitude et c'est tout à fait OK. Donc j'en suis venue à la conclusion, du coup, cette année, que j'allais alterner mes contenus principaux, donc newsletter et podcast, une semaine sur deux. Donc une semaine une newsletter, une semaine un podcast, et un petit peu, voilà, étaler les choses comme ça. Donc... plutôt que de manière hebdomadaire, donc un peu ralentir la cadence finalement, diminuer ma fréquence, avoir cette fréquence et cette régularité, mais en diminuant effectivement la fréquence hebdomadaire, passer à bimensuelle. Et j'avoue que je suis plutôt satisfaite de cette décision, ça m'a procuré instantanément un espèce de soulagement, donc c'est un bon signe, ça veut dire que c'est probablement la bonne décision pour moi que j'ai prise. Qu'est-ce qui a moins marché aussi? Évidemment, Yogi Bizline étant 80% de mon business, j'ai aussi 90% de mes clientes qui n'achètent qu'une fois chez moi. Et donc, potentiellement, toutes ces clientes, notamment de Yogi Bizline, c'est un axe de croissance et d'amélioration pour moi de venir diversifier mon catalogue. Déjà pour qu'il reste pas trop étroit pour moi, parce que j'ai aussi besoin de me nourrir d'autres offres, d'autres casquettes, etc. Aussi pour pouvoir toucher d'autres entrepreneurs dans le bien-être d'une manière générale, mais pas forcément que des profs de yoga, parce que je suis souvent sollicitée. Donc le mieux, ça serait que j'ai une offre qui soit claire et qui où les autres entrepreneurs du bien-être n'ont pas besoin de se poser de questions à savoir si c'est pour elles ou pas. Donc, je pense que j'ai vraiment cette volonté aussi de m'ouvrir au marché des accompagnantes, hein, à l'heure, à la prestation ou à la séance, même en dehors des profs de yoga. Et donc, ça, c'est quelque chose à quoi je réfléchis. Donc, ça ne sera pas un pivot, hein, parce que je vais rester à 100% sur les profs de yoga d'un côté, mais ça sera peut-être un business. Ça sera, par exemple, l'offre Yogi Bizline que je vais probablement dupliquer et aménager pour qu'elle puisse toucher justement d'autres types de professions et d'accompagnantes, sans être marketé du coup yoga. Donc il y a vraiment de toute façon quelque chose à regarder du côté de la diversification de mon catalogue d'offres, c'est sûr. Et aussi, et notamment suite à mon dernier lancement, à mon dernier bilan de lancement, de raccourcir le temps d'achat. Donc je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont dans mon écosystème depuis 3 ans. Alors c'est très bien, hein, voilà, et ça montre qu'il faut savoir être patient et qu'on sème des graines tous les jours. Et donc, ces personnes-là ont fini par rejoindre Yogi Bizline et elles me suivent depuis les débuts. Hein. Donc, c'était finalement leur premier achat chez moi. Ce qui veut dire que peut-être j'ai des opportunités de créer une offre que mes clientes pourraient rejoindre plus rapidement avant d'investir en fait dans Yogi Bizline. Tout comme aussi... Je me rends compte finalement que dans ma communauté existante, hein, moi j'ai à peu près 500 clientes aujourd'hui dans Yogi Bizline et donc j'ai plus de 3000 clientes en liste email, plus de 5000 sur Instagram. Bah, je me dis que j'ai encore vachement d'opportunités dans ma communauté de conversion en fait. Hein, ça veut dire qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas payé pour travailler avec moi entre guillemets et donc qui n'ont pas non plus été accompagnés sur du contenu payant qui est quand même différent que du contenu gratuit. Donc bah, je crois que cette année... Voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette communauté, sur ma communauté, plutôt que d'aller chercher des nouvelles personnes finalement. Et je m'aperçois que voilà, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore un grand écart entre les gens qui ont déjà travaillé au moins une fois avec moi et les gens qui n'ont pas du tout travaillé avec moi et qui pourtant me suivent depuis des années. Donc voilà, j'ai aussi envie d'être concentrée sur ça, sur raccourcir le temps d'achat et continuer à aller toucher ces personnes qui sont dans ma communauté. Pour qu'elles puissent du coup profiter de mes contenus payants qui sont forcément pas les mêmes encore que mes contenus gratuits. Voilà, et puis dernière chose, je n'avais pas pu anticiper ou prévoir, même si j'ai mes taux de conversion, etc., mais je m'étais pas forcément rendu compte du nombre de personnes que j'allais accueillir dans Yogi Bizline suite à mes lancements. Et donc à chaque fois, alors autant les lancements pour moi c'est pas plus du tout en tout cas énergivore, c'est quelque chose d'assez léger, fluide, que j'adore, j'ai toujours beaucoup d'espace, beaucoup de temps, etc. pendant les lancements, autant cette année j'ai quand même vécu des grosses fatigues après les lancements parce que bah, le fait d'avoir accueilli beaucoup de personnes, j'ai été très sollicitée très vite, c'est normal hein, au début on démarre une formation donc il y a beaucoup de questions, que ce soit des questions à la fois techniques, à la fois de compréhension mais aussi de coaching, et là je vous avoue que c'est là où je vois quand même la limite à un moment donné d'être la seule personne dans mon business. Voilà, ça c'était près de 80 personnes qui m'ont rejoint au mois de novembre, donc là je vois bien que voilà, si je veux continuer à accueillir autant de monde dans Yogi Bizline, c'est important que je remette certaines choses à plat, que je vois quelle nouvelle direction je veux donner à ce programme, comment je peux le structurer encore plus et mieux pour qu'il puisse accueillir un plus grand nombre de personnes. Et aussi, bah, clairement, c'est une priorité pour moi maintenant d'organiser le business de façon à ce qu'il ne dépende pas ou plus, en tout cas, à 100% de moi. Donc, voilà ce qui a pu un peu moins marcher, mais Pour revenir sur cette dernière, voilà, même si ça m'a causé la grosse fatigue et un peu de me sentir submergée, j'ai pas l'habitude de ça non plus dans mon agenda directement après les lancements. Pour rien au monde, je ferais autrement parce qu'en fait, si on commence à anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent, entre guillemets, bah en fait, on reste dans notre tête, on fait plus rien, on peut être un peu en mode freeze quoi, paralysé de faire les choses. Et donc le mieux, bah voilà, c'est une fois qu'on est devant le truc accompli, le résultat accompli, bah c'est d'améliorer les choses, c'est de les anticiper pour la fois d'après. Mais c'est pas de se dire oh là là, et si j'accueille trop de monde, bah oui, et en même temps si j'accueille que 20 personnes en l'état, ça se passera très bien. Donc encore une fois, pour moi, cet apprentissage de gérer les problèmes quand ils arrivent, enfin, ça confirme ce truc que je pratique déjà, c'est de gérer effectivement les problèmes quand ils arrivent. Donc voilà, je vais conclure cet épisode sur finalement un petit peu toutes les leçons et les apprentissages de cette année. Donc ce que j'ai pu constater, c'est que oui, certes, j'ai une grande capacité de travail, mais c'est pas parce que je peux faire beaucoup que c'est ça qui va me rendre heureuse en fait, de remplir mon agenda et de travailler tout le temps. Donc mon indicateur pour prendre les meilleures décisions pour moi, c'est le temps. Pour moi, c'est le temps que j'ai besoin d'avoir pour moi. Alors évidemment, une fois que mon sacral a travaillé, hein, c'est-à-dire que mon sacral, il choisit pour moi les meilleures idées. Mais après, moi, je sais que j'y vais selon, effectivement, quel est le temps disponible pour moi qu'il me reste. C'est vraiment mon meilleur indicateur pour prendre mes décisions. Ce que je viens de vous dire, hein, clairement, ne pas traiter les problèmes avant qu'ils arrivent. Et donc, je pourrais traduire ça en vendre d'abord et gérer les choses et optimiser et améliorer après. Autre point aussi, pour moi en tout cas, c'est que la réussite d'un entrepreneur, c'est pas son chiffre d'affaires. Et pour moi, c'est pas mon chiffre d'affaires, c'est mes bénéfices et ma trésorerie. Mais c'est aussi, encore une fois, le temps et la liberté que mon business me permet. Que la santé physique et la santé mentale, clairement, quand on est entrepreneur, c'est pas des options. Et je dirais même que plus tu veux scaler dans ton entreprise, plus tu dois prendre du temps pour toi. C'est indéniable, c'est sûr et certain que c'est ça qui contribue à une meilleure performance business. Petite note à moi-même, c'est de faire confiance à ma créativité, mais bon, ça, j'y reviendrai. J'ai aussi constaté que c'était très intéressant pour moi donc d'être entourée de générateurs dans mes prestataires et de manifesteurs un petit peu plus dans mes coachs ou dans mes business friends. Et à l'inverse, moi, j'ai probablement une prédilection pour accompagner les manifesteurs générateurs, normal, je le suis moi-même, et les projecteurs aussi. J'arrive pas mal à accompagner les projecteurs. J'ai aussi constaté que c'était important de faire le point régulièrement. Alors vous savez que je suis archi fan des bilans, j'en ai pas parlé là, mais faire des bilans, c'est aussi ce qui a contribué à mon expansion business, clairement. Donc faire le point régulièrement sur ce qui me ralentit et corriger ça, c'est hyper important pour moi parce que en tant qu'MG, j'ai besoin d'avancer vite. Et donc ça, j'ai constaté que cette année, je devais vraiment écarter rapidement tout ce qui venait me ralentir ou prendre des décisions sur ce qui me ralentit ou changer les choses, la perspective. Des fois, c'est aussi avoir des discussions, par exemple, avec mon partenaire ou autre. Mais dès qu'il y a quelque chose qui me ralentit, il faut vraiment que je l'identifie et que je le corrige immédiatement. Ça, c'est hyper important pour moi. De constamment garder un esprit critique aussi. Je crois, plus j'avance dans le business, que toutes les stratégies se valent, entre guillemets, que toutes les stratégies fonctionnent. C'est juste que certaines nous correspondent mieux que d'autres. Donc, c'est l'expérimentation à chaque fois qui va permettre, en fait, de savoir, oui ou non, si ça nous convient. Donc, de tester et d'ajuster. Et ensuite, effectivement, la régularité sur ces stratégies-là. Donc, vraiment de pas vouloir toujours copier-coller des stratégies en l'état. Alors, si la première fois, au début, parce que c'est comme ça qu'on apprend, de l'expérimenter et puis après de l'adapter à soi. C'est ça qui fonctionne finalement le mieux et d'être assez régulière du coup après sur les stratégies qu'on emploie et qui nous conviennent. Et un petit peu dans cet ordre d'idées-là aussi, parce que je vois souvent des nouvelles entrepreneurs qui veulent tout de suite, par exemple, pas travailler plus de X temps, pas faire ceci, cela, mettre les offres en evergreen pour que ça tourne tout seul, etc. Je crois quand même que au début, ça demande toujours un peu plus de temps, un peu plus de travail, un peu plus d'accompagnement, un peu plus d'heures. Et c'est ensuite que vient le moment où on a besoin de faire moins, mais mieux. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au début, on est tous passés un peu par la case « faire plus ». Et c'est normal parce que c'est les premières fois qu'on fait les choses. Donc, encore une fois, c'est peut-être là aussi où on va tester plus de choses pour en éliminer après. C'est peut-être là où on va prendre plus de temps pour faire les choses, etc. Donc, attention, le moins mais mieux. Je ne suis pas sûre que selon où on en est sur notre chemin entrepreneurial, ça soit toujours le bon moment de considérer le moins mais mieux. Même si ça n'empêche pas d'aller droit au but, d'aller à son objectif, de ne pas s'éparpiller, etc. Attention. Mais il y a quand même toujours cette notion de oui, ça prendra peut-être plus de temps, ça sera peut-être un petit peu plus fastidieux au début. Il y a peut-être un petit peu plus de choses à mettre en œuvre au début. Peut-être qu'au début, travailler 4 heures par jour, c'est un peu juste pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc voilà, c'est une réflexion que je vous partage. Je constate aussi qu'il n'y a rien de figé dans un business et que tout est changement et que si on cherche à se dire voilà, j'ai mon offre, j'ai ma stratégie, j'ai mon truc une bonne fois pour toutes et ça bougera plus et voilà, je vais mettre ça en place et après je serai tranquille, en fait non parce que quand on fait ça, on va à l'encontre un petit peu du mouvement, quelque chose de naturel. Et je pense que le mythe, c'est de croire effectivement que on va mettre quelque chose en place et que on va plus jamais avoir envie de changer ça, qu'il y aura plus jamais rien à faire et hop, que ça va tourner des années comme ça. En fait, je crois qu'on se rechallenge toujours et c'est parce que notre vision, elle évolue, parce que nous, on évolue, nos apprentissages, ils évoluent, notre entreprise, elle évolue. Donc en fait, je crois que c'est quelque chose d'infini, c'est un jeu infini, le développement d'un business. Et donc, nous, on doit se concentrer sur progresser et aussi retourner à nos besoins régulièrement. Donc de se re-questionner régulièrement sur qu'est-ce qui nous passionne pour venir ajuster finalement notre flamme, pour venir ajuster notre vision. Et je pense que c'est ça qui va nous éviter de foncer droit dans le mur ou qui va nous éviter d'aller vers de l'ennui. Puisque de toute façon, l'intérêt qu'on porte aux choses et l'énergie qu'on a à y mettre, c'est normal que ce soit quelque chose de cyclique. Mais donc, je crois qu'il faut accepter qu'il n'y a jamais rien de figé en business et que ça reste vraiment un chemin. Je dis souvent, il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais aussi que c'est OK de se rechallenger régulièrement, toujours en se reposant la question et en retournant à nos besoins et en se redemandant ce qui nous passionne et ce qu'on a envie de partager régulièrement. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça remet le statu quo souvent sur les choses déjà l'existant. Donc, le fait de est-ce que j'abandonne ça ? Est-ce que... mais j'ai créé tout ça et maintenant je vais arrêter, je vais repartir de zéro et je vais recommencer autre chose, etc. Mais je crois que oui, parfois c'est le cas et c'est OK aussi. Et puis finalement, mon dernier apprentissage, et je vous l'ai déjà un petit peu partagé, mais c'est qu'à un moment donné... Encore une fois, malgré tout, alors même si moi aussi, je me rechallenge régulièrement, j'améliore régulièrement mon offre principale, j'améliore ma communication. Là, par exemple, j'ai décidé d'avoir une nouvelle fréquence sur le podcast et la newsletter, etc. Donc, je me pose régulièrement la question de mes besoins. En revanche, c'est vrai que, par contre, j'itère, je répète et je suis régulière sur ce que je fais. Et comme je vous le disais précédemment, pour moi, je vois quand même que c'est ça qui me permet d'avoir la croissance que j'ai aujourd'hui. Et donc, si on veut être un petit peu dans cette croissance régulière, dans cette stabilité, dans cette sécurité, je crois que oui, quand on répète les mêmes choses, comme moi, par exemple, me concentrer sur la même offre signature et en revanche, l'adapter, l'améliorer en fonction de mes besoins, de mes envies, de mon évolution, le même positionnement, l'étude de mon client idéal en permanence, créer du contenu et communiquer toujours. Donc voilà, même si c'est pas régulier, même si je change les formats, etc., c'est quand même... quand je dis c'est pas régulier, je suis toujours là quand même. Je crée une pièce de contenu quasiment quand même tous les jours. Je communique aussi toujours avec un objectif précis, donc sans m'éparpiller, comme je vous le disais. J'ai toujours... je pense toujours aux fondamentaux de mon business, donc qui est de développer ma liste email, puisque c'est quand même là où j'ai le meilleur retour sur investissement. D'avoir des stratégies de vente à la fois evergreen, à la fois sur lancement, d'utiliser l'après-vente et le bêta-test qui va m'éviter de perdre du temps ou de créer des choses pendant des mois qui vont pas fonctionner. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même des bases, des fondations, des fondamentaux en fait, comme aussi de faire des bilans régulièrement, hein, c'est ce que je vous disais, pour ajuster et pour éviter de rester enlisé dans une direction qui est pas la bonne ou de refaire des choses qui fonctionnent pas finalement. Et je pense qu'en fait, voilà, ça c'est un peu la secret sauce qui est encore une fois, qui a pas de magie et qui est assez classique, mais c'est des fondamentaux finalement dans un business que j'ai mis en place sur les 12 mois de ma première année d'entrepreneuriat, et depuis je ne fais que répéter ces fondamentaux là, c'est-à-dire que même si je devais changer de business ou changer de cible, c'est les mêmes fondamentaux que je vais réutiliser pour développer mon business. Et je crois que si j'ai réussi à passer de 0 euros à 400 000 euros cette année, il n'y a pas de magie, c'est juste ces fondamentaux-là que j'ai appliqués et d'ailleurs qui sont aussi les fondamentaux que j'enseigne. Donc voilà, il n'y a pas de hack dans cet épisode. Bon, en tout cas, j'espère que tu retiendras un ou deux enseignements ou qu'il y a quelque chose qui te marquera pour ton propre business et ta propre évolution personnelle dans ces différents apprentissages et enseignements que j'ai tirés de mon année, mais de mes quelques années aussi d'entrepreneur. Et puis juste pour terminer, donc moi ma petite phrase maintenant, hein, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand je me sens submergée, ou quand c'est difficile ou quoi, je mets mes baskets, je sors, je vais dans la nature et je marche. Et ça, je crois que c'est le meilleur remède, c'est-à-dire c'est de planter la toudou et vraiment d'aller faire autre chose, d'aller respirer, d'aller dehors, de prendre l'air et de prendre du temps pour soi. Donc vraiment ça c'est mon arme ultime quand il y a un truc qui va pas, et ça marche à tous les coups. Voilà, eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce bilan 2023 t'a plu, t'a été utile. Enfin, voilà, peut-être que comme moi, t'adores écouter ce genre de contenu. Donc, dans ce cas-là, tant mieux. Je profite de cet épisode pour te dire que c'est ta dernière chance de visionner mes ressources gratuites qui sont actuellement disponibles. Je parle notamment de la masterclass, donc comment développer ton business en ligne en 2024. Je parle de la méthode 50K, qui est mon mini cours offert, et je parle aussi du replay du Yoga Business Bootcamp. Donc ils sont disponibles jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que je rentre de Thaïlande, puisque ensuite je vais un peu faire le tri dans toutes ces ressources. Alors certaines vont juste évoluer et d'autres disparaître, mais aussi c'est surtout parce que je dois remettre des choses à jour par rapport au prix de Yogi Bizline qui va évoluer. Donc du coup, si tu veux profiter du prix là, d'un prix exclusif, d'une remise exclusive et d'un bonus, enfin des bonus exclusifs, pour rejoindre Yogi Bizline, je t'invite à en profiter dès maintenant. Donc je vais te remettre dans la description de cet épisode, je vais te remettre les différents liens si tu veux visionner ces ressources gratuites avant qu'elles disparaissent, et si tu veux profiter de ce package exclusif pour rejoindre Yogi Bizline. N'hésite pas, si cet épisode t'a plu aussi, à venir me mettre une petite note ou un petit mot. Ça fait longtemps que je t'ai pas invité à le faire, et du coup, quand j'en parle pas, tu le fais pas. Du coup, j'ai plus de commentaires et plus de notes sur Apple Podcast. Donc, si tu m'écoutes depuis plusieurs épisodes, si à chaque fois t'apprends quelque chose ou ça t'est utile, si t'as déjà mis en place une stratégie que t'as appris dans mes épisodes, n'hésite pas à venir me le partager sur Apple Podcast. Et puis, pour rappel, hein, donc encore une fois, Yogi Biz Podcast, ça sera un épisode tous les 15 jours cette année, donc en alternance avec ma newsletter. Alors évidemment, je me priverai pas si j'ai envie de faire un épisode de manière spontanée à en faire plus, hein, mais en tout cas, en termes de fréquence, je ralentis la cadence, comme je te disais, j'ai plus envie de surdélivrer. Donc, juste envie de faire, si j'ai envie, je rajouterai des épisodes supplémentaires, mais sinon, ça sera un épisode tous les 15 jours. Donc, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, et on se retrouve désormais dans 15 jours. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!